Nous sommes le 8 janvier. Le journal avec vous, Laurence Thomas. Bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Poubelle la vie à Toulouse et dans son agglomération. Presque un mois que les éboueurs sont en grève. Les déchets s'amoncellent sur les trottoirs. Les habitants n'en peuvent plus. La SNCF revoit son offre de transport à cause du Covid et du manque de personnel malade, lui aussi, comme beaucoup de Français. À partir de la semaine prochaine, beaucoup de trains seront annulés, y compris les TGV et les Eurostar. Mobilisation aujourd'hui sur l'esplanade du Trocadéro à Paris pour un Français détenu depuis un an en Iran. Et puis ce concert exceptionnel ce soir à la Maison de la Radio, la chef d'orchestre et soprano Barbara Hannigan.
Sans oublier les invités de cette matinale. Dans 20 minutes, Karine, vous recevrez...
Une docteure en neurobiologie, Adèle Combes, vient de publier un livre coup de poing, comment l'université broie les jeunes chercheurs. Rendez-vous à 7h50.
Et puis à partir de 8h20, question à l'eurodéputée écologiste Karima Deli, conseillère politique de Yannick Jadot pour la campagne présidentielle.
Dans les rues de Toulouse, comme dans 24 autres communes de l'agglomération, la grève des éboueurs s'éternise et la situation ne devrait pas s'arranger de sitôt. En grève depuis mi-décembre, les agents territoriaux chargés de la collecte des poubelles durcissent leur mouvement. Ils protestent contre la fin du fini-parti, c'est-à-dire pouvoir rentrer chez soi dès que le ramassage est terminé. En échange, les éboueurs réclament des jours de congés supplémentaires pour la pénibilité. Les négociations entre syndicats et direction sont bloquées. Résultat, Soizic Pelé, certains quartiers de la ville rose ploie sous les déchets.
Plus question pour Mélanie de sortir la terrasse de son restaurant de sushi où elle est serveuse. À la place, on trouve en ce moment...
Une nouvelle déchetterie de Toulouse, on va dire.
Sur le trottoir en face de l'entrée, des dizaines de sacs poubelles sont entassés autour des containers, dont ceux du restaurant qui ne peuvent plus être stockés à l'intérieur.
Ça fait un peu dégueulasse quand tu passes devant le restaurant et on essaie de stocker dans le local poubelle qu'on a. Sauf que les odeurs commencent à s'imprégner dans le restaurant. Du coup, on a dû dire à la mairie qu'on mettait dehors, on était obligé. Surtout qu'on a des poubelles tous les jours, parce que le poisson, c'est à peu près tous les jours, on peut pas le garder. Et on travaille avec des aliments crus qui périment vite.
Et ça ne risque pas de s'arranger. La grève s'est durcie avec depuis deux jours le blocage des dépôts. Benoît Fontani est le porte-parole de l'intersyndicale des éboueurs.
Chaque fois que nous allons dans une négociation, on recule. Enfin, l'administration nous fait reculer les demandes des syndicats. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est devenu inacceptable. Il sera bloqué tant que nous n'aurons pas obtenu des échanges avec l'administration et une sortie favorable.
L'issue favorable, selon eux, c'est 34 jours de congé pour pénibilité afin de compenser l'arrêt du fini-parti, sauf que la métropole ne veut pas aller au-delà de 9 jours pour le moment. De son côté, le maire de Toulouse et président de la métropole, Jean-Luc Moudenc, menace de confier la collecte au privé.
Soizic Pelé.
La pagaille à Toulouse donc avec les déchets, la pagaille aussi à l'école avec Omicron.
Des parents qui deviennent chèvres, le nouveau dispositif sanitaire du ministre de l'Éducation nationale reste encore bien compliqué et des syndicats appellent à la grève jeudi prochain. Et en pleine polémique sur les protocoles sanitaires dans l'éducation nationale, la mairie de Limoges a décidé de distribuer gratuitement des masques FFP2 à tous les enseignants des écoles de la ville et aux agents municipaux qui sont en contact avec les enfants. 1200 masques FFP2 par jour jusqu'à la fin janvier. Un pied de nez au gouvernement ou un coup de com'. Le maire de Limoges s'en défend. Pour lui, c'est une vraie mesure sanitaire d'urgence. Émile Roger Lombertier au micro de Jérôme Aidan de France Bleu Limousin.
Pourquoi je l'ai fait à ce moment-là? Tout simplement parce que la vague montant, je me suis dit qu'il était indispensable que nous puissions accompagner le mieux possible l'ensemble de la société active au niveau des crèches, au niveau des maternelles et au niveau des écoles primaires. Vous savez, ça rejaillit aussi sur le nombre de tests à faire, sur le travail que font les pharmaciens qui sont épuisés entre les tests et les vaccinations, et que ce n'est pas un pied de nez par rapport au gouvernement. J'ai ces masques à disposition, je les mets aujourd'hui pour protéger les populations qui travaillent, qui sont en contact des enfants, qui peuvent être contaminés et contaminants.
Émile Roger Lombertier, le maire de Limoges. Fatigue, toux, fièvre et maux de tête, c'est le combo Omicron. Santé publique France a présenté les symptômes les plus fréquents du Covid, version 2022. Les entrées à l'hôpital et en soins critiques continuent d'augmenter. 21 605 personnes hospitalisées, dont 3815 en réanimation. Et encore une conséquence d'Omicron, des trains en moins à cause du Covid. La SNCF a adapte son offre de transport à partir de la semaine prochaine. Une partie des TGV et des trains intercités seront supprimés car avec la crise sanitaire Farida Noir, les voyageurs sont moins nombreux.
30% de réservations en moins depuis le début de l'année, indique la SNCF, en particulier en semaine. Une baisse due notamment au renforcement du télétravail. Conséquence, à partir de la semaine prochaine, il y aura donc 10% de TGV en moins et 20% d'intercités supprimés. Mais ce n'est pas uniquement à cause de la baisse des réservations qu'il y aura moins de trains, car la SNCF veut aussi avoir une marge de manœuvre. Elle anticipe ainsi une augmentation potentielle du nombre d'agents indisponibles à cause du Covid. Un plan de transport adapté, connu à l'avance, pourra donc permettre d'éviter des annulations de dernière minute. Quant au nombre de cheminots malades actuellement, nous ne sommes ni plus ni moins touchés que le reste de la population, indique la compagnie ferroviaire, qui ajoute que 90% des Eurostars seront aussi supprimés. Ce qui ne bouge pas, ce sont les trains de nuit, tous assurés. Ce n'est pas la première fois que la SNCF réduit la voilure. Le plan de transport a été adapté plusieurs fois depuis le début de la crise sanitaire.
Farida Noir, quand la question de la vaccination se pose au sein des élevages agricoles, la France comptait hier 63 foyers de grippe aviaire, plus de la moitié dans le département des Landes, où 155 000 volailles ont été abattues. Un virus transmis par les oiseaux migrateurs et qui touche la France pour la 4e fois depuis 2015. Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, annonce une phase d'expérimentation de 2 vaccins sur les canards qui ne disposent pas de protection, contrairement aux poulets.
Le Conseil français du culte musulman vit peut-être ces derniers jours.
Le président du CFCM lui-même estime dans une tribune publiée hier que l'instance n'est plus viable. Il évoque une autodissolution possible. Delphine Evenou, c'est un pas de plus vers la réorganisation de l'islam de France voulue par l'exécutif.
Le CFCM est mort, ce n'est plus un interlocuteur de la République. Il y a un mois, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur en charge des cultes, ne mâche pas ses mots. Il faut dire que depuis plus d'un an, le Conseil français du culte musulman, composé de 9 fédérations, est rongé par les divisions. Les portes claquent les unes après les autres. Inacceptable pour le gouvernement qui voit son projet de Conseil national des imams plombé par ces dissensions. Alors depuis quelques semaines, la contre-attaque se met en place. Le ministère annonce la tenue d'un forum de l'islam de France, prévu pour début février, confirmé mercredi soir par Emmanuel Macron, qui recevait à l'Élysée les autorités religieuses pour ses vœux. Une centaine de personnalités conviées, avec une philosophie, repartir de la base locale. De petits groupes de travail se sont d'ailleurs retrouvés en visioconférence dès cette semaine pour préparer ce forum, qui a vocation à devenir annuel. Mais se transformera-t-il en une instance à proprement parler, avec un ou plusieurs représentants officiels? La question reste posée.
Delphine Evenou, la prison à vie pour 3 Américains, 3 Blancs, reconnus coupables du meurtre d'un jeune jogger noir de 25 ans. Ahmaud Arbery a été pourchassé et tué par balle. C'était en février 2020 dans l'état de Géorgie. Les auteurs du meurtre prétendaient l'avoir pris pour un cambrioleur. L'auteur des coups de feu et son père n'ont aucune possibilité de libération anticipée, contrairement au troisième qui lui pourra demander à sortir de prison après 30 ans. Ce dernier avait filmé la course-poursuite. Les avocats de la défense vont faire appel. Cela fait un an et demi maintenant qu'il est en prison. C'est le seul occidental non binational à être détenu dans les geôles iraniennes. Benjamin Brière, 36 ans, faisait du tourisme en Iran quand il a été arrêté, rappelle sa famille, qui appelle à une mobilisation aujourd'hui à 14h sur l'esplanade du Trocadéro à Paris. Le récit de Claude Guibal.
C'était en mai 2020 et Benjamin Brière, alors âgé de 35 ans, était en Iran, dans le désert, près de la frontière avec le Turkménistan. C'est là qu'il aurait été arrêté pour avoir pris avec son drone des photos de zones interdites. Un parc naturel, dit quant à lui son avocat. Et cela fait plus d'un an et demi que Benjamin Brière est enfermé dans une prison à Machad, en attendant d'être jugé pour espionnage et propagande contre le système politique de l'Iran. Sa famille décrit un jeune homme rêveur, amoureux de grands espaces, parti faire des voyages avec son minibus en Scandinavie puis en Iran. Son arrestation s'inscrit sur fond de bras de fer entre Paris et Téhéran, qui détient toujours la chercheuse franco-iranienne Farida Adelka, condamnée à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. Le 25 décembre dernier, Benjamin Brière a entamé une grève de la faim pour protester contre ses conditions pénitentiaires et l'apparent silence diplomatique autour de sa détention. Quelques visites consulaires, mais pas d'avancée réelle sur son dossier, au désespoir de sa famille.
Claude Guibal, il aura fallu 36 défaites et 44 ans pour que l'Olympique de Marseille batte enfin Bordeaux. C'est chose faite depuis hier soir. Victoire de l'OM 1-0. Avec ce succès, Marseille prend provisoirement la 2e place du championnat de Ligue 1. Les Girondins sont toujours en danger, 17e, à un point de la zone de relégation.
Enfin, Laurence, ce concert exceptionnel ce soir à la Maison de la Radio et de la Musique.
Avec Barbara Hannigan, l'atypique chef d'orchestre et soprano canadienne. Pour l'occasion, elle a invité quelques amis, le baryton Stéphane Degout, les pianistes Bertrand Chamaillou et Alphonse Sémin, ou encore son compagnon, le comédien Mathieu Amalric. Celui-ci va réciter des textes entre les œuvres de Ravel, de Gershwin ou de Camille Saint-Saëns. Amélie Perry a pu se glisser dans les coulisses des répétitions.
Barbara Hannigan a reconstitué un drôle de bestiaire en composant son programme. Entre le carnaval des animaux de Saint-Saëns, les histoires naturelles de Ravel, la pieuvre de Satie ou les dents de la mer de John Williams.
J'ai nommé ce programme Animatopia. J'ai arrangé en fait la musique par animaux, les poules, les coqs, et puis une section que j'ai nommée la natation synchronisée avec aquarium et tous les animaux dans l'eau, sur l'eau comme le cygne. Et puis c'est avec les textes que Mathieu Amalric a choisi pour intervenir, oui.
Car cette chef atypique n'en est pas à une malice près. Elle a convié son compagnon, Mathieu Amalric, à réciter des textes de son choix entre les œuvres.
Il y a des cris dans la nature, il y a une variété de cris. L'aboiement, c'est vraiment la honte du règne animal, quoi.
Une sélection à l'image de la fantaisie du comédien.
Des recettes de cuisine de poulet, des textes de Gilles Deleuze, peut-être de Lacan, peut-être des blogs d'aquariophiles. Je me suis permis d'amener qu'est-ce que c'est que cette frontière entre l'humain et les... Et l'animal, ça devenait passionnant.
Le Philharmonique de Radio France en miaule déjà de plaisir.
Merci Amélie Perrier.
Amélie Perrier dans le journal de Laurence Thomas, ce concert Barbara Hannigan et Mathieu Amalric qui sera diffusé le 24 février sur France Musique. Concert ce soir à 20h à l'auditorium de Radio France. Il est 7h41.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Avec un samedi, une journée ventée et pluvieuse. Et Jean-Michel Gonaski, bien sûr.
Exactement. Seules les régions méditerranéennes seront épargnées, profitant d'un bon ensoleillement durable. Ailleurs, des pluies poussées par un vent très turbulent vont attaquer ce matin le quart nord-ouest, avant de gagner la plupart des autres régions avant la fin de la journée, en s'accompagnant de neige sur tous les massifs et d'un vent partout assez fort et même très virulent sur les côtes de la Manche et d'Océan, avec des pointes jusqu'à 110 km/h. Les températures de l'après-midi baissent dans l'est, avec 5 à Besançon et Dijon, 6 à Metz, Strasbourg et Lyon, atteindront 12 à Brest, Nantes, La Rochelle et Tarbes, 13 à Toulon et Ajaccio, en passant par 8 à Lille, 10 à Paris, Bourges, Limoges et Agen.
Et Jean-Michel Gonaski, Météo France.